20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime. Justine Vigneault, bien sûr, Émilien Vinet, c'est Marc Bisset ce soir qui est à la réalisation technique de notre émission. Et à la une, une affaire très largement méconnue du grand public, et qui est une affaire absolument passionnante. Elle se déroule au début du XXe siècle, exactement en 1907, le 31 janvier 1907. Un fait divers atroce secoue l'opinion. Une fillette de 11 ans disparaît mystérieusement à Paris. On va retrouver son corps dans une consigne de la gare de l'Est. Elle a été étranglée, poignardée, violé. L'auteur du crime, eh bien, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. Il s'agit d'un ami intime des parents. Il s'appelle Albert Soleillan et l'affaire va devenir, bien sûr, l'affaire Soleillan. Cet événement provoque une énorme campagne de presse qui va d'ailleurs s'amplifier lorsque l'assassin condamné à mort sera gracié par le président de la République de l'époque, Armand Falière, qui s'apprêtait, figurez-vous, à abolir en France la peine de mort. Alors, pour parler de tout cela, il fallait un historien de la police et j'ai demandé à Jean-Marc Berlière de venir nous retrouver ce soir. Bonjour Jean-Marc Berlière.
Bonjour Jacques Brunel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez retrouvé toutes les pièces du dossier dans les archives de la préfecture de police et vous avez publié il y a quelques années un livre consacré à cette affaire, Le crime de Soleillan, 1907. Les journalistes et l'assassin, c'était aux éditions Talendier. Il y a évidemment un clin d'œil au titre du film Le juge et l'assassin, n'est-ce pas?
Bon. Absolument.
Et il faut dire aussi que, justement, puisqu'on parle du juge et de l'assassin, l'affaire Vacher, le tueur de bergère, est encore dans toutes les mémoires en 1907.
Ah oui, bien sûr. Un serial killer extraordinaire, une angoisse dans les campagnes. Jamais oublier que la France de l'époque est un pays rural, hein, elle le sera majoritairement jusqu'en 1931, et donc la plupart des Français vivent à la campagne, c'est la guerre 14 hein, qui va dépeupler les campagnes, et donc ils sont très sensibles à tout ce qui est insécurité, bien sûr, notamment à ces deux figures de la sécurité que sont les vagabonds, on ne parle pas de SDF à l'époque, hein, oui. On parle de cheminots, EAU, bien sûr. Oui. Et puis les bohémiens. Les tziganes.
Ouais. Alors il y a, j'y pense à chaque fois qu'on parle de l'affaire Soleillan, on dit que ça s'est passé à la belle époque, mais c'est la belle époque du crime.
Ah, écoutez, la télévision aurait existé. On imagine un présentateur de journal télévisé de 20 heures disant avec un visage blafard, oui. La France a peur.
Tous les soirs, oui.
C'est extraordinaire. Hein. D'ailleurs, quand je passais mon temps dans ces archives, c'était l'époque de l'élection présidentielle où M. Chirac a été réélu. Et on était complètement dans la même atmosphère insécuritaire, de peur. Jamais on avait vécu dans un pays aussi peu sûr, aussi peu...
Oui, parce qu'il y a des titres de journaux incroyables. Paris, propriété des bandits. On parle des Apaches qui menacent le bourgeois à tous les coins de rue.
Au lieu de parler des quartiers, vous savez, ce sont les fortifications, hein, parce qu'il n'y a pas encore de banlieue. Ouais. Mais c'est exactement la même chose. Hein, les figures de la peur en ville, c'est l'Apache. L'Apache, c'est le jeune, finalement. Ouais. Plus tard, ce sera blouson noir, plus tard, etc.
Et on a l'impression que la police est dépassée par les événements.
Elle fait plutôt bien son travail parce qu'en réalité, quand on regarde les pourcentages, vous savez, de résolution de crimes et autres, ils sont assez élevés, bien plus qu'aujourd'hui, parce qu'on se tue essentiellement quand même en famille ou dans le milieu familier. Mais elle est dépassée parce qu'elle est surtout en province et surtout dans les campagnes où la gendarmerie est incapable de faire face à ces bandits qui sont désormais en auto. Oui, alors que les gendarmes, ils sont à cheval dans le meilleur des cas.
Et les policiers commencent à être dotés des premières automobiles.
Oui, encore.
C'est pas là les brigades du Tigre, c'est à ce
exactement,
moment-là.
Aussi, exactement, on les crée à cette époque-là. Mais il y a un mythe hein, autour des policiers en auto, parce qu'ils ont 4 autos pour toute la France.
D'accord, donc tout est relatif, effectivement. Alors, juste une question, Jean-Marc Bernier, je vous demande pas de développer, mais de nous donner, si j'ose dire, un indice. Pourquoi dans une atmosphère guerre comme celle-là, où l'insécurité est vraiment très présente dans les esprits, pourquoi l'affaire qu'on va raconter et détailler ensemble frappe à ce point les imaginations? Parce que, évidemment, c'est horrible, c'est un crime abominable, une petite fille de 11 ans, un ami intime de la famille, mais malheureusement, quand on est dans un climat d'insécurité, c'est pas la première fois qu'il y a un événement comme celui-là. Pourquoi celui-là touche à ce point?
Oui, au risque, je ne voudrais choquer personne, mais le crime est d'une banalité terrible.
Voilà.
D'ailleurs, deux semaines plus tard, il y a exactement le même événement qui se passe à côté de Nogent-le-Rotrou, donc ça a moins, évidemment, voilà. de retentissement.
Dans la période actuelle, on peut trouver, malheureusement, regardez aujourd'hui
ce qui se passe avec la recherche de la petite gamine disparue, avec l'affaire Grégory qui n'en finit pas, hein, oui. 35 ans ou je ne sais combien après. La mort d'un enfant, c'est, me disait un policier quand j'allais les voir pour essayer un peu de comprendre comment ils travaillaient et tout, il me disait, il n'y a rien de pire. Se retrouver devant des parents qui sont bouleversés déjà par la disparition, qui ont peur, qui vivent dans l'angoisse, et quand on est obligé d'aller leur annoncer qu'hélas, l'enquête est effectivement... Et je crois que c'est un retentissement énorme. Et puis, la dernière raison de ce retentissement, enfin, les deux dernières raisons, c'est l'importance des médias dont on n'a plus idée aujourd'hui. Songez que la France de l'époque a 4 journaux qui sont millionnaires en tirage.
Oui. Ce sont les plusieurs plus grands... éditions par jour.
Absolument.
Les fameux vendeurs de journaux qui passaient dans la circulation.
Et puis, dans les campagnes, les gens qui sont abonnés, ils achètent le petit journal. Vous savez, vous allez lire au café du bistrot du village. Oui. Et en fait, pour un journal, il y a 10 personnes, 15 personnes qui sont au courant. Le monde discute, c'est dans le journal, donc c'est vrai. Oui. Y compris, évidemment, il y a déjà des complotistes, déjà des gens qui font mal leur boulot, si j'ose dire, des journalistes. Et quand vous avez un journal comme donc le petit journal qui tire jusqu'à 2 millions d'exemplaires, vous vous rendez compte, il n'y a pas un journal chinois, il n'y a pas un journal américain tire avec des tirages pareils. Donc ça, c'est une raison. Et puis, ce que vous avez expliqué fort justement, c'est qu'on est dans une période où on a le président graciant systématiquement les condamnés à mort. Alors, les jurés sont d'autant plus à l'aise pour condamner à mort qu'ils se disent c'est pas grave, il ne sera pas exécuté. On a une espèce d'escalade, de course à l'échalote comme ça. Ouais. Et les gens se passionnent. Et vous connaissez le mot de l'humoriste, hein, quand on lui disait, mais alors,
il faut on abolit la peine de mort.
Il disait que messieurs les assassins commencent.
Alphonse Karr. Alphonse Karr, journaliste et écrivain de la fin du 19e siècle.
Formidable talent.
Et là, en 1907, on est en plein dans cette ambiance-là avec les abolitionnistes, ceux qui veulent qu'on conserve la peine de mort, bien sûr, et ceux qui, évidemment, vont, devant ce fait divers tragique, dire qu'il est impensable d'arrêter de guillotiner dans une époque pareille. Alors, on fait une première pause. On retrouve Jean-Marc Berlier. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes universitaire. Mais si, c'est important de le dire parce que vos recherches... Non, mais vous faites comme ça, oui, mais non. Bah si, parce que vos bouquins, je vais pas dire moi-même du mal des journalistes, il m'arrive d'en écrire des bouquins, mais je dois dire que quand je lis les vôtres et quand je sais les sources auxquelles vous avez pu accéder, etc., là, il y a une méthode qui est différente, simplement, de la méthode journalistique, mais qui fait que, quand vous accrochez, si j'ose dire, à une histoire. Alors, on sort du livre et on sait vraiment tout. C'est ce que nous allons essayer de faire dans un instant ensemble. Et je vais vous raconter dans quelles circonstances cette affaire Soleillant a éclaté. Paris, jeudi 31 janvier 1907, 22h. Ce soir-là, monsieur et madame Herbelding pénètre dans le commissariat du quartier de Saint-Ambroise en compagnie d'un ami. Ils viennent signaler la disparition mystérieuse de leur petite fille, Marthe, âgée de 11 ans. L'ami qui accompagne ce couple d'Alsaciens s'appelle Albert Soleillant. Il est ouvrier. Il travaille dans un petit atelier de fabrication de sièges de voiture. Il habite au 133 rue de Charonne, avec sa femme et avec son fils de 4 ans. Sa femme, elle, travaille dans un atelier de couture et ce couple connaît les Herbelding depuis de nombreuses années. À l'époque, monsieur Herbelding avait fait d'ailleurs embaucher Soleillant dans sa propre entreprise. Et puis, ils étaient devenus amis de jour en jour, de semaine en semaine. À l'époque, M. Herbelding avait fait embaucher Soleillant dans sa propre entreprise. Et puis, de fil en aiguille, ils étaient devenus amis. Et Soleillant avait vu naître la petite Marthe, donc 11 ans plus tôt. Albert Soleillant raconte aux policiers ce soir-là, les policiers qui prennent sa déposition, que ce jeudi, il était allé chercher la petite Marthe en fin de matinée au domicile de ses parents, au 76 rue Saint-Maur, pour l'emmener ensuite chez lui, rue de Charonne, retrouver son épouse, Julienne, qui devait passer l'après-midi avec la petite et l'accompagner à un spectacle de café-concert au Bataclan, un spectacle pour lequel elle disposait d'un billet de faveur pour deux personnes. Mais, explique alors Soleillant au policier, sa femme n'avait pas pu prendre son après-midi, son patron avait exigé qu'elle retourne à l'atelier de couture pour finir un travail urgent pour le compte d'une cliente, et Soleillant avait donc décidé d'emmener lui-même l'enfant au spectacle pour ne pas la décevoir. Albert Soleillant et la petite Marthe étaient arrivés, si on suit son récit, ils étaient arrivés sur place vers 14h30. Le spectacle avait déjà commencé. Ils avaient été placés au balcon, mais après une quarantaine de minutes de représentation, la petite avait été prise d'une envie pressante et elle avait demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. Elle s'y était rendue seule et elle n'était pas revenue. Albert Soleillant poursuit sa déposition. Il raconte que ne voyant pas l'enfant revenir des toilettes, il était descendu lui-même au sous-sol pour la chercher, sans succès. Il avait alors attendu l'entracte pour faire le tour des lieux et aussi pour interroger d'éventuels témoins qui auraient pu voir la petite fille, peine perdue. Celle-ci semblait littéralement s'être évaporée. Soleillant était alors rentré chez lui, au cas, dit-il, où Marthe y serait retournée toute seule. Et constatant son absence, il s'était enfin résolu à retourner chez les parents Herbeling pour leur faire part de la situation. Ils avaient entrepris ensemble des recherches dans tout le quartier, accompagnés de quelques voisins et de quelques amis. Ils s'étaient même rendus au domicile de plusieurs camarades d'école de la petite fille. Mais ces recherches étaient restées vaines, d'où leur décision de se rendre enfin au commissariat vers 22h pour déclarer officiellement la disparition de la fillette. Dès le vendredi matin, l'enquête de police commence. La sûreté parisienne a été alertée. Les policiers diffusent la description de l'enfant à tous les services de police, mais également aux conducteurs d'autobus, aux conducteurs de tramway, ainsi qu'aux agents des principales gares parisiennes. Je cite la description de la petite fille, la jeune Marthe Herbeling, de taille ordinaire, a les cheveux châtains, les yeux marrons, dit cette fiche de recherche. Elle était vêtue d'une robe en drap à carreaux verts et noirs, d'un corsage garni d'un plastron en soie noire, avec deux boutons dorés, d'un collet en drap bleu marine. Elle était coiffée d'un chapeau en feutre bleu, garni d'un chou en ruban rouge et chaussée de bottines à lacets dont une décousue à l'arrière de la tige. Dès leurs premières investigations, les enquêteurs de la sûreté dirigés par le sous-brigadier Fouillard sont intrigués par des invraisemblances, par des à peu près dans le récit d'Albert Soleillant. Alors ils l'emmènent au Bataclan, sur place, pour rencontrer le directeur, le personnel de surveillance et aussi les garçons de café qui servent les clients à leur place. Mais personne ne le reconnaît. Personne n'a le souvenir d'avoir vu, la veille, cet homme accompagné d'un enfant qui serait arrivé en cours de représentation. La préposée aux toilettes ne se souvient pas non plus d'avoir vu la petite Marthe dont on lui présente une photo. Soleillant se trompe également en croyant reconnaître un employé. Mais cet employé n'était pas de service le 31. Et il dit aussi avoir reçu deux tickets rouges en échange de son billet de faveur. Or, les tickets distribués pour les fauteuils de balcon sont verts, selon le directeur de la salle. Les policiers sont intrigué, mais sans plus, car Soleillant a l'air sincèrement bouleversé par la disparition de la petite fille. On peut mettre ses incohérences ou ses trous de mémoire sur le compte de l'émotion. De plus, les parents Herbeling répondent de lui comme d'eux-mêmes. Les voisins, les amis, tout le monde décrit Soleillant comme un ouvrier et un père de famille respectable. L'homme semble insoupçonnable. Pourtant, il deviendra bientôt le suspect numéro 1 des enquêteurs.
Jacques Pradel.
L'heure du crime.
Et à la une de l'heure du crime, l'affaire Soleillant, cette disparition d'une fillette de 11 ans, les parents qui vont au commissariat accompagnés de leur meilleur ami et qui racontent que la petite fille a disparu pendant un spectacle au Bataclan et qu'elle n'est jamais réapparue. Et voilà, donc les policiers dans ces cas-là, et ça Jean-Marc Berlière, vous pouvez nous le confirmer, qu'on soit en 1907 ou en 2017, en fait, il y a une trame d'enquête rigoureuse que les policiers vont suivre méticuleusement, hein, d'ailleurs.
On dit dans le métier qu'il faut fermer toutes les portes. Donc, ils ont dès le départ d'énormes soupçons sur Soleillant. Il y a trop d'incohérences dans son propos, il y a trop d'invraisemblances. Oui. Il ne s'est pas donné vraiment de peine pour chercher la petite fille, etc. Oui. Mais en revanche, comme évidemment et comme encore aujourd'hui, dans ces cas-là, vous avez une affluence de lettres anonymes, de dénonciations. Tout le monde a vu son voisin, un homme suspect, etc. Il faut suivre toutes les pistes. Il faut fermer toutes les portes parce qu'autrement, un avocat expliquera c'est innocent, vous n'avez pas, bien sûr.
Donc, parmi les hypothèses, il y en a une qui vaut que la police va abandonner assez rapidement, c'est l'enlèvement par un inconnu parce que il ressort de tous les témoignages que collectent les policiers que la petite Marthe n'aurait pas suivi un inconnu. Et puis, en plus, il y a l'heure de la disparition qui ne colle pas avec ce genre de scénario.
Bien sûr, dans l'après-midi. En fait, et puis, on ne sait même pas s'il a existé. Enfin, est-ce que c'est un homme qui suit les petites filles à la sortie de l'école? Enfin,
ça... Alors, attendez, vous êtes en train de me parler de l'homme au capuchon. Là.
Bien sûr.
Ça, c'est autre chose. C'est cet homme, et on le dénonce à la police, qu'on a vu s'exhiber un exhibitionniste, en fait. Bon, à la sortie d'une école. Mais il y a une autre piste aussi qui apparaît d'ailleurs dans la presse, c'est la piste des Apaches. C'est une version un peu ancienne de l'histoire de la traite des Blanches, là, qu'on raconte.
C'est un peu ça, d'autant qu'on est, à l'époque, complètement dans la traite des Blanches. Hein. C'est un fantasme qui nourrit énormément l'opinion. Il y a des lois, il y a des enquêtes.
Albert Londres mènera l'enquête, hein, quelques années plus tard. Là-dessus,
Et donc, on pense... Puis les Apaches, c'est des jeunes qui ne respectent rien, vous savez bien,
etc. Peut-être donc mettre dans des réseaux de prostitution... Des jeunes filles qu'on enlève. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, ils veulent fermer des portes, les policiers, et ils vont faire un boulot absolument remarquable. Ils vont fouiller, ils vont inspecter toutes les caves possibles et imaginables sur le trajet. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Alors, ils vont s'intéresser au lac du Bois de Vincennes, mais ça, il faut que vous nous donniez l'explication.
En fait, on est fin janvier 1907, et il fait un froid terrible sur Paris. Les étangs sont gelés, les canaux aussi, les gens patinent, et donc on va sonder, on va crever la glace, enfin c'est des...
Oui, mais parce qu'il y a des gens qui ont dit, a vu quelqu'un jeter un corps dans un lac, c'est pas possible, ils sont tous gelés, mais enfin la police y va quand même, en se disant peut-être
qu'ils sont obligés de tout, parce que et puis il faut quand même, il y a quelque chose qui nous échappe aujourd'hui, mais c'est que chaque fois qu'ils se livrent à une enquête et tout, en général ils sont jamais tout seuls, ils sont même pas les premiers, il y a des journalistes qui sont arrivés avant eux, qui ont des moyens de se payer un fiacre, eux, ils vont à pied, etc. Donc, ils sont tout le temps, en fait, j'allais dire, dans le deuxième peloton. Ouais. Et donc, ils sont obligés, hein, bien sûr.
Il faut pas rater une seule piste. Alors, il y a quand même aussi autre chose, et ça, c'est toujours la même méthode aujourd'hui de la police, dans une enquête, quand il y a disparition d'enfants, on s'intéresse aux proches et au parcours de vie de ceux qu'on pourrait également suspecter. Et évidemment, parmi eux, il y a ce Soleillant, l'ami de la famille, le monsieur bien sous tout rapport. On creuse quand même un petit peu son passé pour savoir qui il est réellement. Quoi.
Et c'est tout sauf un monsieur bien. Hein. C'est quand même un fils de famille qui a ruiné son père, qui l'a volé pendant des années. qui vit d'escroqueries, de petites choses minables, et puis surtout qui est sans cesse renvoyé, qui travaille rarement plus de quelques jours, quelques semaines, qui a mauvais esprit, c'est un violent, un sanguin, personne ne l'a jamais vu ivre, mais il fréquente essentiellement les marchands de vin, et qui sont d'ailleurs un lieu de sociabilité extraordinaire, on s'y retrouve, on joue aux cartes, on mange des crêpes, etc. Les airbuildings ont quelque part à voir avec ça, parce que ils ont hébergé, c'est compliqué, le père Soleillant n'a jamais supporté que son fils, qui était tout jeune à l'époque, 16 ans, je parle du père Soleillant,
pardon.
Que son fils ait fréquenté Julienne, qui était plus âgée que lui, dont on dit qu'elle était plus ou moins prostituée, etc. Il a tout fait, et donc le fils pille la cave de son père, fournit les herberdines en vin. Donc, il y a des espèces de complicités quand même qui sont à la marge. Hein. Et puis, il est condamné, à force de se livrer à ce genre de choses. Il a été condamné en 1902 à 8 mois de prison parce que son patron lui a donné un billet de 1000 francs pour aller faire de la monnaie. Et puis, évidemment, il a disparu avec le billet de 1000 francs. Ouais. Il a volé ses parents, son père,
etc. Et cette condamnation n'a pas été exécutée.
Elle n'a pas été exécutée. Ensuite, il s'est caché, il a changé. Voilà. C'est les Herbuilding qui l'ont caché. Il y a des liens entre eux qui sont forts, hein, bien sûr.
Alors là, les policiers sont très malins parce que quand ils ont découvert ce truc, on va y revenir dans un instant, ils vont se servir de cette condamnation qui n'a pas été exécutée pour arrêter, évidemment, pour interpeller Soleillant et pour le mettre, on dirait aujourd'hui, en garde à vue. Quoi,
hein. Absolument, il est conduit au dépôt, il est arrêté le dimanche matin 3 janvier et on le conduit au dépôt, puis à partir de là, il est à la disposition des policiers qui vont l'interroger. Je ne pense pas qu'il l'ait frappé, contrairement à la réputation de la police de l'époque, mais ils l'ont interrogé, puis comme il n'arrête pas de se couper, de se recouper, alors, etc.
On va y venir, parce que évidemment, on va vérifier son emploi du temps, vraiment méticuleusement, le jour de la disparition. Et c'est là qu'on va s'apercevoir, en fait, qu'il a menti sur les horaires, et il y a un témoignage capital, il va être confronté d'ailleurs au cours de sa, disons, garde à vue, à cette femme. C'est une voisine qui s'appelle Madame Lepsch, et elle habite au 122 rue de Charonne, et son témoignage est très important parce que ses fenêtres, à cette femme, donnent sur l'appartement de Soleillant. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qu'elle va dire aux policiers, cette femme?
Elle dit qu'à 14h10, que Soleillant dira « mais non, c'était à 13h05, etc. » Et elle a vu Soleillant, une petite fille sur le balcon, Soleillant faisant rentrer la petite fille à l'intérieur, tirant les rideaux. Et quand on lui demande, alors, et on les confronte, hein, Soleillant dit « mais non, pas du tout, elle se trompe d'heure et tout. » Je ne peux pas me tromper, elle est affirmative. Les gens n'ont pas de montre, hein, à l'époque.
Oui, c'est pour ça qu'elle avait regardé par la fenêtre.
Elle regarde par la fenêtre, en fait, l'enseigne d'un horloger qui est dans la rue, à quelques 30 mètres environ, et elle a l'heure, parce qu'une grosse horloge, vous savez, en relief sur la rue, et elle dit, c'était 14h10. Elle ajoute d'ailleurs quelque chose d'étonnant. Elle dit, moi j'étais très surpris quand je lis son interrogatoire, qu'elle s'est déshabillée et tout. Mais en fait, j'ai découvert qu'elle était allée livrer des agrafes, elle avait une commande d'agrafes pour son patron, à un client, et donc elle s'était habillée, elle rentre chez elle, elle se remet, j'allais dire, en tenue ordinaire et quotidienne.
Ouais. Et alors, cette femme, cette voisine, connaît également l'enfant du couple Soleillant qui a 4 ans, elle dit qu'elle n'a pas pu confondre cet enfant avec la fillette de 11 ans qui était bien plus grande et bien
absolument
plus âgée que lui.
Absolument, elle précise qu'elle ne la connaît pas ou qu'elle l'a vue peut-être une fois, mais que c'est une fille, elle est plus grande, plus âgée.
Voilà, et donc, comme Soleillant a dit qu'il était arrivé avec la petite fille au Bataclan à 14h30, en 20 minutes, il ne peut pas être sur place, c'est absolument impossible. Chez le juge d'instruction, il y a cette confrontation entre Madame Lepsch et Soleillant, Madame Lepsch, donc, qui maintient son témoignage. Alors, il y a d'autres confrontations, on peut prendre quelques instants pour les rappeler, Jean-Marc Berlière. On va mettre ensuite le suspect en présence, toujours dans le bureau du juge, de Jean Thomas. Alors Jean Thomas, lui, il a 28 ans, il est contrôleur au Bataclan et il est chargé en matinée des fauteuils du balcon partie droite, c'est-à-dire là où Soleillan a dit qu'il avait assisté au spectacle. Alors que dit cet homme, alors?
Ben, il dit qu'il ne l'a jamais vu, évidemment, qu'il s'en souviendrait. Il n'a jamais vu cet homme, jamais avec... Et la petite fille, surtout, les aurait frappés. Alors Soleillan, à ce moment-là, dit « Mais non, j'étais du côté gauche. » Enfin bref, il s'enfonce, c'est pitoyable. On est de plus en plus mal pour lui, j'allais dire, quelque part. Et évidemment, les policiers se régalent, hein, parce que... Ouais. Et ils le pressent d'avouer, de libérer sa conscience. Ouais. Et donc, à un moment, il tombe, il s'assoit.
Ah, attendez, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Non, attendez, excusez-moi, mais alors, il y a quand même... Non, parce que c'est comme dans un roman de Simenon, ce truc-là. Parce que à un moment, comme il n'avoue pas, vous faites remarquer, les policiers disent, bon, alors attendez, vous n'êtes pas reconnu par les gens, machin. Qu'est-ce que vous avez vu sur scène? Quel numéro vous avez retenu? Quelles chansons vous ont particulièrement frappé? Et alors Soleillan dit, ah ben moi c'est Madame Godet, hein, parce que alors Madame Godet c'est une grande vedette à l'époque. Il dit, ce qui m'a frappé, c'est ses petites manières, je cite, parce que oui, vous les avez citées, ses petites manières et ses chansons grivoise. Et là,
pas de chance, Madame Godet ne s'est pas produite en matinée le lundi en question. Donc,
elle était malade. Voilà, elle s'est fait porter pâle, mais il n'y avait que Soleillan qui ne le savait pas.
Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est Jean-Marc Berlière. Alors, je reviens à l'affaire Soleillan. On a donc cet homme dont le témoignage est extrêmement fragilisé, puisque quand on le confronte à sa voisine, ben on comprend qu'il ne pouvait pas être à 14h30 au Bataclan pour arriver en cours du spectacle. Ensuite, on le confronte avec les différents employés et avec même, je crois, le directeur du Bataclan. Bon, personne ne le reconnaît. En plus, il s'est planté. Il a dit qu'il avait
dans le programme, bien sûr.
Il a dit qu'il avait. Oui, c'est trouvé dans le programme. Mais il avait
la
dit...
couleur des tickets.
Alors enfin... la couleur des tickets, oui, parce qu'il avait dit ma femme avait un billet de complaisance. Mmh. Alors on avait ce ticket, on le donnait, on l'échangeait. Et on vous donnait des tickets de couleur en fonction de la place qu'on allait vous attribuer dans le Bataclan. Mmh. Et là, lui, le balcon qu'il décrit ne correspond pas à la couleur des billets.
C'est terrible à lire. Enfin, il invente au fur et à mesure avec un aplomb assez extraordinaire parce qu'il il raconte un spectacle qu'il n'a pas vu.
En plus, oui, bien sûr.
Et
bien
donc, sûr. On sent bien qu'il s'enfonce, il est dans le déni absolu. Oui. Puis ça doit être difficile de sa part de reconnaître ce qu'il a fait.
Je voudrais savoir, Jean-Marc Berlière, il y a toujours un moment de bascule dans une garde à vue, et il y a un moment où il va s'effondrer, quoi, en pleurs, il va dire, bah oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a une raison objective? Non,
non, il est pressé de questions par Fouillard et ses collègues, hein, mm-hmm. Et il est... ce n'est plus défendable.
Il peut plus s'en sortir, quoi, voilà.
Et donc, d'un seul coup, il se rend compte qu'il est totalement enferré, et en plus, il y a quand même, vous savez, les policiers, ça n'apparaît pas, ça, dans le procès-verbal, mais on dû le presser en lui disant si tu parles, je sais pas s'il le tutoie d'ailleurs, je suis pas certain, on en tiendra compte, le juge sera, les jurés seront sensibles à ça, etc. Ouais. Et il y a ce moment de bascule psychologique, hein, on assume d'un seul coup.
On ne sait pas ce qui est devenu la petite fille, on n'a pas trouvé le corps, hein, à ce moment-là.
Alors lui, oui, il y a cette fameuse scène effectivement où on lui dit qu'on a même fouillé les étangs,
oui, les caves, les étangs.
Oui, non. Puis là, il a cette phrase étonnante. Vous ne la trouverez certainement pas au bois de Vincennes et tout. Et donc là, les policiers, comment vous pouvez en être si sûr, etc. Ben. Donc vous savez où elle est et tout.
Et là,
il craque.
Là, ça va.
C'est
bien.
La phrase qui va le faire craquer.
Ouais. Alors il craque et il dit j'ai commis. Ben je vais vous dire la vérité. J'ai commis un acte de folie. J'ai le texte que vous avez publié sous les yeux. C'est lui qui parle là. Lorsque j'ai constaté que ma femme n'était pas là quand je suis allé à l'appartement, puisqu'elle était retenue, théoriquement, elle devait travailler ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il avait raconté. Hein, bon. Mmh. J'ai voulu quand même aller au concert avec la petite, sauf que la petite a dit, la petite Marthe, donc, a dit, mais moi, je veux pas y aller sans Julienne. Julienne, c'est le prénom de la femme de Soleillan. Alors on est resté dans l'appartement, dit-il, puisqu'elle voulait pas y aller. Je l'ai taquinée, j'ai joué avec elle, puis j'ai voulu la caresser pour la faire rester, car elle voulait retourner toute seule chez ses parents, et en voulant la retenir, j'ai senti le corps de cette fillette dans mes bras, enfin bon, je passe les détails, je l'ai Pressée, elle a crié pour empêcher ses cris, je l'ai serrée à la gorge. Elle est tombée inanimée, morte. J'ai alors pris une toile d'emballage que j'avais chez moi. J'ai replié le corps légèrement, je lui ai couvert la tête de son manteau. J'ai mis deux enveloppes de toile d'emballage et j'ai porté le tout à la gare de l'Est et je l'ai mis en consigne. Et puis, dit Soleillant, je suis retourné chez moi et puis chez les parents de la petite. Et il ajoute à ce moment-là, et avec beaucoup de véhémence, mais en tout cas, je n'ai pas violé cet enfant, je vous le jure, j'étais fou, je demande pardon pour ce que j'ai fait. Il a dit, je vais vous dire la vérité, ben non, il n'a pas dit la vérité.
Non, il est sur la voie de la confession, j'allais dire, et de la révélation, donc au fur et à mesure, il lâche des choses, hein. Et en plus, il efface, là, c'est le directeur de la sûreté qui l'interroge, Amar, et qui lui dit, il ne ferait pas si froid, on aurait déjà trouvé le corps, parce que effectivement, ce grand froid fait que le corps, ça fait quand même 8 jours, hein, désormais, oui. Ne s'est pas décomposé, et on est incapable de le localiser. Oui. Mais il ajoute des choses terribles au fur et à mesure. Enfin, vous savez, c'est un grand moment, hein, celui des aveux. Il faut que le coupable prenne conscience, se libère petit à petit. Et évidemment, il essaye... j'ai fait ça, mais oui. pas comme ça, puisque je ne l'ai pas violé.
Alors,
quoi.
On va aller, les policiers vont aller à la consigne de la gare de l'Est, ils vont trouver le corps. Il va y avoir une autopsie, on ne va pas donner de détails inutiles. Mais un quand même, c'est que l'autopsie prouve que la petite a été violée et qu'elle a été donc étranglée et poignardé, ce qu'il n'avait pas dit.
Absolument, puis juste comme ça, en passant un détail, mais qui nous met bien dans l'ambiance, quand les policiers vont prévenir la famille Herbelding qu'ils ont trouvé le corps, etc., en réalité, des journalistes les ont déjà précédés et sans aucun ménagement ont annoncé ça aux parents. Le père a fait une commotion cérébrale, enfin, il faut imaginer hein, ce que pouvait être, puis ce sont des milieux très populaires, le 11e arrondissement, Saint-Ambroise, rue de Charonne, rue de Saint-Maur et tout.
Ouais.
Jacques Pradel, l'heure du crime.
Jusqu'à 21h sur RTL.
L'affaire Soleillant qui a bouleversé la France de 1907, c'est Jean-Marc Perlière qui s'était en tant qu'historien de la police et qui a retrouvé tout le dossier de cette affaire, donc tout ce qu'on dit depuis le début, Jean-Marc Perlière, c'est vraiment, là on n'est pas dans la rumeur urbaine, dans la construction, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Première conséquence, on voit que les policiers ont très bien fait leur travail, et comme vous disiez tout à l'heure, ils ont vraiment fermé toutes les portes, et puis il y a ce personnage, et on comprend mieux, au fur et à mesure de ce que vous dites, qu'on comprend mieux que la France a été totalement bouleversée, on va y revenir dans un instant, que la peine de mort, il n'était plus possible dans cette atmosphère-là de faire voter l'abolition à la Chambre des députés et au Sénat, et pourtant c'est ce qui était prévu. Alors, très rapidement, la belle-sœur va dire, mais moi il a tenté de me poignarder, de me violer.
Avec des détails qui, quand on lit les rapports, nous permettent d'imaginer ce qui s'est passé avec la petite Marthe. Hein. Il est d'une grande violence, il a des pulsions érotiques, j'allais dire, d'une grande violence, il l'a quasiment étranglée.
Non, il l'a violée, sous la menace d'un couteau.
Elle a réussi à s'enfuir, en tout cas, mais sous la menace d'un couteau, il lui dit qu'il va la poignarder. Enfin, on imagine la séquence avec Marthe, hein, bien sûr, quand il raconte ça.
Alors, les obsèques de la petite fille vont avoir lieu le 14 février 1907, 2 semaines après la tragédie. Ces obsèques vont avoir lieu à l'église Saint-Ambroise, à Paris. Alors là, certains journaux parlent de 50 000 personnes présentes, c'est déjà énorme. D'autres disent 100 000. Enfin,
bon, on a des photos, hein, puisque la photographie existe.
Ah, ça permet d'avoir une idée de la réalité.
Sincèrement, donc, tout ce coin du boulevard, devant l'église et autres, est noir de monde. Hein. Mmh. Il a fallu une douzaine, je crois, de corbillards et de chars pour porter les fleurs, tellement les gens avaient...
Jusqu'au cimetière de Pantin, hein, je crois que je vais être enterré au cimetière
absolument.
De Pantin.
Absolument. Et il y a eu une émotion énorme. Et puis alors, ce qui surprend, c'est que, 15 jours, 3 semaines après, il n'y a plus une trace dans les journaux. La grande question, c'est, sera-t-il condamné à mort et sera-t-il exécuté ?
Alors, cela dit, il n'y aura pas un long suspense, parce qu'à l'époque, ça va très vite entre les faits, l'enquête, l'instruction et le procès aux assises, puisque là, le procès va avoir lieu du 22 au 24 juillet.
Absolument, cinq mois plus tard, hein, ouais. Grosso modo, et donc dans l'ambiance que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein d'affaires criminelles, il y a eu des bandes comme celle des frères Paulet dans le nord de la France et autres, et donc la justice ne chôme pas. Hein. Ouais. Et alors le procès donne lieu, comme d'habitude, c'est du théâtre hein,
oui,
aussi.
Mais le procès, c'est un drame. D'abord, tout le monde veut voir la tête du monstre, et alors on va être déçu là, parce que c'est un type complètement banal apparemment,
oui.
D'après ce que vous dites dans votre livre.
Il est banal, oui, effectivement, il n'a pas une tête de monstre, sauf qu'évidemment, le moindre détail va le charger. On va raconter. Et puis les journaux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'ils ont obtenu réellement des confidences de la part des gardiens de la pénitentiaire, hein, il est à la santé, enfin la prison, et il raconte des détails fous, quoi. En fait, Soleillon est d'une indifférence totale par rapport au drame, par rapport à ce qu'il a pu susciter, par rapport à rien. Et en plus, comme il pense qu'il ne sera pas condamné à mort, puisque le président
s'il est condamné, gracier,
il ira au bagne.
Il a pas tort,
et là, on a un fantasme sur le bagne, vous savez. On représente quelqu'un sur un hamac, sous des cocotiers. On a l'impression que le bagne, c'est vraiment une sinécure extraordinaire.
C'est le Club Med qui n'existe pas encore. Quoi. Voilà.
Alors qu'en réalité, la moitié des déportés meurent en moins de deux ans. Hein.
Alors, la sentence, évidemment, n'étonne personne. C'est la mort. Il est condamné, en tout cas, à être guillotiné. Et là, sa femme a une réaction incroyable.
Ah oui, elle dit, laissez-moi tuer ce monstre.
Donnez-moi un couteau.
Il faut la retenir parce que elle dit, je vais tuer, il a déshonoré mon fils, mon nom et tout.
Je vais tuer de mes mains.
Et donc, il est condamné à mort. Deux mois plus tard, la nouvelle de la grâce tombe, et c'est une indignation dans les journaux. Hein, le monstre ne sera pas guillotiné, la grâce... on sent bien que c'est la grâce de trop. Ouais. Et pendant que Soleillan est emmené avec la chaîne, hein, l'île de Ré, le vapeur qui va le conduire en Guyane, il y a ce fameux débat à la Chambre des députés.
Alors voilà, là vous pouvez prendre quelques temps pour nous expliquer, parce que c'est vraiment imminent. Enfin, Falière, lui, était très connu pour ses opinions abolitionnistes, mais elles sont partagées. Clémenceau, il pensait quoi de ça?
Il est abolitionniste, hein, il est bien sûr, et il y a Jaurès qui est pour, en fait, etc. Ouais. Et pour être clair, si vous voulez, en fait, la peine de mort semble être abolie pour une raison technique. On a cessé de voter les crédits nécessaires à l'entretien de la machine, comme on dit, au salaire, enfin, c'est pas un salaire, mais du l'entretien du bourreau, de l'exécuteur des hautes œuvres, comme on dit, qui est Anatole Deblaire. Oui. Et donc, de fait...
Sous Falière, il est au chômage, quoi, Deblaire.
Totalement, il n'est plus chômage payé ni rien. Ouais. Et donc, on imagine que la peine de mort n'existe plus. Et là, les abolitionnistes ont sans doute commis une erreur tactique, parce que cette abolition, de fait, ne les satisfait pas. Ils veulent une abolition solennelle. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là...
C'était en train de se faire, mais on a voulu que ce soit vraiment...
Il y avait une majorité
gravé dans le marbre.
Il y avait une majorité en commission d'abolitionnistes. Oui. Et le crime de Soleillan et quelques autres va retourner l'opinion, mais surtout il va se passer quelque chose d'inouï. C'est que les journaux vont se lancer dans une surenchère extraordinaire avec des questions, vous savez, référendum. Vraiment, hein, c'est une consultation.
On va sonder les lecteurs pour leur demander de s'exprimer.
Et le petit journal pose une question très clair, êtes-vous pour ou contre l'abolition de la peine de mort? Alors, il y a eu tellement de réponses, d'ailleurs, qu'il a fallu allonger le délai de réponse. J'ajoute qu'on a assorti la réponse d'un jeu concours, il y a des lots, et donc le résultat est écrasant, il y a grosso modo 1 300 000 pour la peine de mort contre 300 000 non. D'ailleurs, c'est presque étonnant qu'il y ait encore 300 000 non, et à ce moment-là, ça n'a aucune valeur constitutionnelle, hein. C'est un sondage, on dirait, aujourd'hui, et encore, ne répondent que ceux qui veulent répondre, qui se sentent concernés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, les parlementaires changent d'avis. Hein. Il faut être réélu quand on sent que ses électeurs n'apprécient pas ce qu'on est en train de faire.
Excusez-moi, Jean-Marc Béret, est-ce qu'on met vraiment au vote la question de l'abolition ou pas?
Absolument.
On n'annule pas le vote.
Il y a eu débat à l'Assemblée. Ouais. Alors, un débat extraordinaire, hein, parce que les gens qui s'expriment, vous avez d'un côté Aristide Briand. Clémenceau n'est pas intervenu. Il est président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Mais vous avez le garde des Sceaux, Aristide Briand. Vous vous avez donc Jaurès, vous avez des gens extraordinaires. Et puis en face, vous avez des gens également extraordinaires. C'est Barrès, surtout, qui va mener le... Maurice Barrès, le nationaliste, hein, qui va mener l'action, et qui dit, quand un membre est malade dans un corps, il a la gangrène, on le coupe. La société a le droit de se défendre contre ces gens pourris, etc. Et le résultat est écrasant, évidemment. La peine de mort n'est pas abolie, et il va falloir attendre 73 ans pour que Robert Badinter fasse voter l'abolition de la peine de mort au début du septennat de François Mitterrand.
Et donc en 1981, ne l'oublions pas.
Et là, c'est en 1908 qu'a eu lieu le vote. Et un journaliste très fin dit, il a suffi du crime d'un érotomane pour faire reculer la France dans la barbarie. Parce qu'à l'époque, il y a déjà un certain nombre de pays qui sont en train de voter l'abolition de la peine de mort. Hein. Et le crime de Soleillant, il est entré dans l'histoire, non pas parce qu'il y a malheureusement un assassin a tué une petite fille, ce qui, j'allais dire, est assez banal, mais parce que ça a fait reculer l'abolition de la peine de mort, ça a 73 ans.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu revisiter cette histoire où en fait beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont découvert certainement à travers vos propos. Je voudrais quand même dire que même si ce livre est peut-être épuisé, mais on le trouve sur Internet, alors maintenant il est presque aux enchères à Internet, Le crime de Soleillant, 1907, les journalistes et l'assassin, c'est le livre que Jean-Marc Bernière avait signé aux éditions Talendier en 2003, voilà. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment. L'émission est maintenant terminée, bien sûr, et on se donne rendez-vous à demain.